Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! C'est une institution qui a valeur de symbole, économique, politique et social. Mais c'était comment avant? Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire. L'hydroélectricité avant Hydro-Québec.
Ayant longuement examiné et discuté le problème, le gouvernement est persuadé que la nationalisation d'électricité est une grande et fructueuse affaire, non seulement pour le bien-être matériel du Québec, mais tout autant pour la santé sociale et l'avenir national du Canada français.
Discours de Jean Lesage lors de la campagne électorale de 1962. Le chef libéral promettait alors de compléter la nationalisation de l'électricité, amorcée plutôt par Adélard Godbout. L'idée avait été évoquée dès les années 30, mais abandonnée devant la résistance des différentes compagnies qui se partageaient le territoire. Mais le 28 décembre 1962, à la fermeture des marchés, le signal est donné. Québec annonce son offre publique d'achat de toutes les compagnies privées d'électricité. Un geste fort pour la construction d'un Québec moderne, dorénavant dirigé par sa majorité francophone.
Nos rivières sont riches en ressources d'énergie hydroélectrique. La Bercimis et l'Outaouais, par exemple. Le Niagara, avec ses chutes fabuleuses. Dès 1932, un grand barrage hydroélectrique entrait en action à Beauharnois, dans le Québec. En 1957, deux usines fonctionnaient sur le Niagara, en Ontario. Voici l'énergie que l'eau met à la disposition de l'homme. L'énergie nécessaire aux cylindres, aux presses, aux tours. L'énergie capable de fondre et de modeler, de découper et de façonner, d'actionner les roues, les moteurs et les outils de l'homme. Et de satisfaire aux besoins innombrables de toute une civilisation.
L'exemple du potentiel hydroélectrique des rivières québécoises tel que présenté dans un documentaire en 1958 qui avait pour titre « La canalisation du Saint-Laurent ». Pour nous en parler, mon invité, Stéphane Savard, il est professeur et directeur de l'unité de programme des cycles supérieurs au département d'histoire du LUCAM, auteur du livre également qui a pour titre « Hydro-Québec et l'État québécois », spécialiste de l'histoire d'Hydro-Québec et des enjeux énergétiques. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Coutier.
Avant d'en arriver à l'hydro, parlons d'abord de l'électricité comme telle, hein, qui est une révolution en soi à la fin du 19e siècle. Comment apparaît l'électricité au Québec?
D'abord, il faut comprendre que l'électricité, elle est découverte à la fin du 18e siècle. Il faudra attendre quelques décennies pour que les usages de l'électricité se répandent dans la société européenne, mais aussi américaine. Dans les années 1870, c'est vraiment là où les usages vont se répandre, ce qui permet au monde de découvrir, entre autres, l'éclairage électrique. C'est l'Exposition universelle de Paris en 1878, où pour la première fois, on montre une lampe à arc dans la ville de Paris qui éclaire et ça surprend tout le monde. On appelle d'ailleurs le soleil de minuit, la lumière électrique produite. Et un Montréalais est à l'Exposition universelle de Paris en 1878, c'est M. Craig, un entrepreneur de Montréal qui revient à Montréal à la fin de 1878 et qui a cet objectif de montrer aux Montréalais la lumière électrique, la fée électrique. C'est ce qu'il va faire à la fin de l'année 1878. Et aussi en 1879, sur le Champ de Mars.
Ah oui.
Il va épater tous les Montréalais. À Montréal, ouais. Oui, ouais. Tout à fait.
Parce qu'à Montréal, ben, comme ailleurs dans toutes les villes, on s'éclairait comment? C'est au gaz?
Tout à fait.
Avant ça, oui.
Oui, il y a des compagnies de gaz qui distribuent le gaz et les becs à gaz qui éclairent les rues de la ville, des différentes villes du Québec et de Montréal, bien naturellement.
Oui. Mais l'électricité comme telle, elle vient d'où? Est-ce que déjà, on décèle le potentiel hydroélectrique, mais il n'y a pas de barrage au début, là?
Il n'y a pas de barrage. Donc, c'est de l'électricité qui est vraiment produite au sein de petites usines très, très près. Mais rapidement, on s'aperçoit le potentiel de l'hydroélectricité. Et là, à partir des années 1880, mais particulièrement des années 1890, on va construire au Canada, comme partout ailleurs en Amérique du Nord ou aussi en Europe, des centrales hydroélectriques. Alors, les premières, c'est dans les années 1894, 95, 96. On pense à la centrale de Morancy dans la région de Québec, la centrale de Chambly ici dans la grande région de Montréal.
Oui. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Québec n'a pas été précurseur en la matière.
Le Québec s'inscrit dans un courant où on s'intéresse à l'hydroélectricité, à l'électricité en général. On n'est pas à l'avant-garde au niveau de la technologie. La technologie des compagnies comme les Edison, la Edison Company, etc., c'est de la technologie américaine, européenne, qui est importée ici par des compagnies, des filiales souvent de compagnies américaines ou canadiennes-anglaises. Donc, par exemple, la Canadian Electric Light Company à Montréal, la American Electric and Illuminating Company, plusieurs compagnies comme ça qui voient le jour dans les années 1880, des petites compagnies qui produisent leur électricité ou qui achètent l'électricité de centrales d'ailleurs et qui commencent à la distribuer comme ça à toute petite échelle.
Mais bon, rapidement, on découvre, oui, le potentiel, l'immense potentiel hydroélectrique du Québec. Et c'est Maurice Duplessis qui va le souligner ici dans son style bien à lui. On va l'écouter. Là, on est déjà en 1951. C'est à l'occasion de l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Beauharnois.
La Beauharnois, lorsque les travaux seront complétés, produira une quantité énorme d'énergie électrique. Et je crois qu'il est bon, en cette circonstance, de remercier publiquement la Providence des bontés qu'elle a eues, des bontés toutes particulières qu'elle a eues pour la province de Québec. L'énergie électrique est un facteur incomparable au point de vue terrestre de progrès matériel et de prospérité continue. Et la province de Québec a été dotée de façon toute particulière de cette richesse naturelle. J'ai ici des statistiques qui indiquent bien la position particulièrement riche et avantageuse dans laquelle, grâce à la divine providence, se trouve la province de Québec. Si nous prenons des statistiques officielles, nous constatons que dans la seule province de Québec, nous avons pratiquement le double de la production d'énergie électrique de tout le pays et nous avons plus que 10 fois d'énergie électrique des États-Unis.
Voilà, potentiel énorme cadeau de la divine providence, hein, mais tout ça, bon, livré aux compagnies privées. Parce que qui exploite à ce moment-là l'électricité au Québec avant la naissance d'Hydro?
Bien, comme vous l'avez dit, ce sont les compagnies privées qui décident de se tourner vers l'État québécois pour demander des baux d'exploitation des richesses hydroélectriques, des richesses hydrauliques du Québec. Donc, il y a plusieurs compagnies comme ça dans les différentes régions du Québec qui vont obtenir des droits sur des rivières, des droits d'exploitation pendant une centaine d'années. Souvent, les baux, c'est des baux de 100 ans pour pouvoir exploiter les richesses. Et ces compagnies, donc, viennent souvent établir des industries sous leur juridiction, des industries de pâte et papier, par exemple, ou des alumineries dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui seront alimentées par ces compagnies qui souvent sont détenues par les mêmes intérêts privés.
Et tout ça, ça contribue grandement au développement économique de certaines régions. Vous l'avez dit, le Saguenay, Shawinigan, hein, la ville de Shawinigan, qui en est un bon exemple.
Tout à fait. Shawinigan, c'est peut-être l'exemple qui illustre le mieux cette industrialisation des régions grâce à la ressource hydroélectrique ici. La Shawinigan Water and Power va étendre son pouvoir économique et même politique jusqu'à un certain point sur l'ensemble de la région du Saint-Maurice. Shawinigan va devenir une ville prospère dans la première moitié du 20e siècle au Québec, avec des industries, non seulement des industries de pâte et papier, mais aussi plusieurs industries pétrochimiques dans la région de Shawinigan vont s'établir grâce à l'hydroélectricité.
Oui. Ce que je nous rappelle aujourd'hui, la Cité de l'énergie, hein, notamment à Shawinigan. Mais on l'entendait plutôt dans l'extrait de Maurice Duplessis, qui date de 1951. Or, Hydro-Québec existe déjà à ce moment-là. La nationalisation complète va se faire plus tard sous le gouvernement de Jean Lesage, là, au début des années 60. Mais dans quel contexte naît cette idée-là de nationaliser l'électricité? Ça remonte à quand, ça?
Bien, d'abord, il faut comprendre le contexte du début du 20e siècle. Alors, je parlais tout à l'heure qu'il y a plusieurs compagnies privées, entre autres dans la région de Montréal, plusieurs petites compagnies, mais à la fin du 19e siècle et au début du 20e, il y en a une compagnie qui va prendre toute la place, c'est la Royal Electric Company. La Royal Electric va même fusionner avec la Montreal Gas Company pour créer la Montreal Light, Heat and Power, qui va rapidement, au début du 20e siècle, avoir le monopole de la distribution et même de la production de l'électricité sur l'île de Montréal, mais aussi dans la région, la grande région de Montréal, sur la rive sud de Montréal également. Et donc, qui dit monopole, bien, rapidement, dans les années 1920 et dans les années 1930, plusieurs acteurs économiques, politiques vont s'opposer à ce monopole en disant que le prix de l'électricité, qui est devenu un bien essentiel, est beaucoup trop cher sous ce monopole de l'électricité.
Ah oui, c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc, on est dans cette mouvance aussi, hein, par rapport au lendemain de la crise économique des années 30, là.
Tout à fait. Et on pense qu'à cette époque, une des raisons qui explique la grande crise économique des années 30, c'est les méfaits du capitalisme et du libéralisme économique classique, de laisser-faire. Et on va cibler les trusts.
Oui,
et au Québec, parmi les trusts, le trust de l'électricité, représenté par la Montreal Light, Heat and Power, va devenir ce symbole par excellence à abattre dans le discours de politiciens et d'acteurs comme le docteur Philippe Hamel à Québec, par exemple.
Oui, acteur très important parce que oui, il y a des voix qui s'élèvent dès les années 30, puis lui va être une figure assez importante dans cette lutte contre le trust de l'électricité. On va l'écouter. En fait, c'est René Lévesque qui cite Philippe Hamel dans une conférence qu'il avait prononcée au début des années 30. Là, on est au début des années 60.
Voulez-vous dresser des obstacles sur la large route de la centralisation de la richesse que s'est tracé ce monopole? Après avoir essayé inutilement l'achat de votre conscience, on s'attaquera à votre réputation. On vous insultera. On répandra des injures sur votre compte. L'ordre, la justice et la charité, ça c'est le trust en paix. Opprimant le peuple sans que personne ose lui adresser la moindre réprimande. L'agitateur, le communiste, l'homme aux idées fixes. Ça, c'est tout individu qui dénonce avec des arguments irréfutables les côtés répréhensibles de ce commerce exercé par un monopole au détriment de tout un peuple. Ça, c'est tiré d'une conférence du docteur Philippe Hamel, prononcée en 1933, il y a bientôt 30 ans, à Montréal. Vous avez remarqué, hein? Agitateur, communiste, etc. Vocabulaire n'a pas changé beaucoup depuis 30 ans chez les valets ou les chevaliers servants des monopoles qui s'organise pour nous exploiter tranquillement.
René Lévesque, donc, en 1962, citant Philippe Hamel au début des années 30. Alors, quel rôle il va jouer, Philippe Hamel et les autres, dans cette lutte contre le trust de l'électricité?
Il va d'abord faire un enjeu public, l'idée de la nationalisation ou de l'étatisation de l'électricité. C'est un porte-parole très important. Il va faire des discours publics, il va produire des manifestes en faveur de cette question de l'étatisation de l'électricité. Puis d'abord en disant qu'on n'est pas plus fou que les autres. En 1906, en Ontario, ils ont créé la Commission hydroélectrique de l'Ontario, la Ontario Hydro, dès 1906, où on a décidé de municipaliser la distribution de l'électricité et d'étatiser la production de l'hydroélectricité en Ontario. Donc, déjà, c'est un argument pour dire les autres l'ont fait, ça le fait baisser le coût de l'électricité. L'autre argument, c'est de dire finalement, puis je pense que cet argument-là portait dans l'espace public, l'électricité dans les années 1930, c'est devenu un bien essentiel.
Oui.
De plus en plus de citoyens avaient besoin d'électricité, soit pour s'éclairer dans leur maison, mais il y a aussi l'arrivée des électroménagers petit à petit. Donc, c'est devenu un bien essentiel dans un contexte économique qui est défavorable. Alors, on veut baisser le prix de cette électricité-là. Et Philippe Hamel, comme d'autres, René Chaloux ou encore Thédé Bouchard, qui vont justement politiser cet enjeu-là, faire pression, et faire en sorte qu'il y a un parti politique qui va prendre position en faveur de l'étatisation de l'électricité.
Oui. Ce qui va mener plus tard à la création d'Hydro-Québec. Donc, mais ce qu'on reproche d'abord aux compagnies privées, c'est d'une part le coût, hein, vous l'avez dit. Puis il faut dire aussi que le territoire est assez mal desservi. Il n'y a pas d'argent à faire à la campagne éloignée, par exemple. Un rappel ici, c'est Daniel Johnson, alors ministre des Ressources hydroélectriques dans le gouvernement de Maurice Duplessis, en 1958, qui le rappelle à notre radio.
En 1945, la province de Québec était l'avant-dernière de toutes les provinces pour ce qui est de l'électrification rurale. avec 20 % seulement des fermes électrifiées. Alors qu'en 1956, Québec, qui n'avait que 20 % de ses fermes électrifiées en 1945, et aujourd'hui, l'on peut dire que l'électricité est à la portée de 95 % de nos fermes. Et ça nous met en tête de toutes les provinces du Canada, M. Champoux.
L'électrification des campagnes, une des grandes réalisations du gouvernement de Maurice Duplessis, qui va le rappeler à maintes reprises. Bon, cela dit, c'est un autre gouvernement. C'est le gouvernement libéral d'Adélard Godbout qui va finalement créer Hydro-Québec en 1944. Qu'est-ce qui fait, cela dit, qu'Hydro-Québec voit le jour en 1944, mais qu'il faudra attendre le début des années 60 pour compléter l'étatisation?
Bien, d'abord, dans la loi qui crée la Commission hydroélectrique de Québec, hein, Hydro-Québec, c'est bel et bien dit que c'est l'achat des actifs de la Montreal Light Heat and Power et de la Beauharnois Light Heat and Power, dont le territoire d'action est concentré dans la grande région de Montréal.
Oui.
Mais dans la loi d'Hydro-Québec, il est permis de sortir de cette région-là et même éventuellement d'acheter d'autres compagnies d'électricité. Ce ne sera pas fait. Quelques mois après la nationalisation de l'électricité, c'est l'Union nationale de Maurice Duplessis qui va prendre le pouvoir, qui va enlever à Hydro-Québec le rôle de l'électrification des campagnes qui était au départ dans la loi d'Hydro-Québec et qui va être donné à un office, l'Office d'électrification rurale. Et à ce moment-là, le gouvernement Duplessis, par contre, va laisser Hydro-Québec en place, même s'il considérait que c'était du socialisme de créer cette compagnie publique d'électricité. Sauf que l'idée de nationaliser l'électricité sera à ce moment-là un peu écartée. C'est-à-dire qu'on est satisfait d'abord que le gouvernement d'Adélard Godbout, gouvernement libéral, a réglé le problème de la Montreal Light Heat and Power. Mais il y a toujours cette possibilité-là qu'un jour, Hydro-Québec pourra intervenir de manière beaucoup plus importante sur le territoire québécois, mais la volonté politique n'est plus là. Et je dirais aussi que dans les années 40 puis au début des années 50, la pression populaire n'en parle plus trop non plus.
Ah oui. Donc, le gouvernement d'Adélard Godbout qui crée Hydro-Québec en 1944, là, si je résume, mais qui dessert finalement un petit territoire. C'est pas l'ensemble du territoire québécois. Puis il y a le gouvernement de Maurice Duplessis par la suite qui met les freins là-dessus, là, grosso modo.
Oui, mais c'est plus complexe que ça quand même, parce que Hydro-Québec occupe un vaste territoire quand même du Québec, la grande région de Montréal, c'est-à-dire là où il y a...
La moitié de la population au moins, là,
un grand pourcentage de gens. Mais le problème d'Hydro-Québec, c'est qu'il manque d'électricité produite pour Hydro-Québec, c'est-à-dire qu'elle doit s'approvisionner auprès de la Shawinigan Water and Power.
Ah oui, on y revient, qui, la qui Shawinigan.
Qui est maître de la région du Saint-Maurice. Et donc, éventuellement, très rapidement, au début des années 50, il y a un problème. Il y a un problème, on manque d'électricité. Et Hydro-Québec se tourne vers la Côte-Nord pour pouvoir produire de l'électricité. Et là, va faire une demande au gouvernement d'avoir les droits sur la rivière Bercimis. Et c'est quand même le gouvernement de Maurice Duplessis qui va autoriser Hydro-Québec et qui va donner les droits hydrauliques sur la rivière Bercimis à Hydro-Québec, alors que la Shawinigan Water and Power la demandait aussi ces droits-là. Mmh. Et en 1956, c'est le gouvernement Duplessis qui décide d'octroyer les ressources hydrauliques des rivières Manicouagan et Outarde à Hydro-Québec, et non pas, une fois de plus, à la Shawinigan Water and Power.
Et qu'est-ce qui fait donc au début des années 60, le gouvernement de Jean Lesage en fait une promesse électorale puis s'empare de ce dossier-là? Parce que vous dites, dans les années 40-50, on en parlait moins de ça.
D'abord, René Lévesque devient le ministre des Ressources naturelles.
Ouais.
Et rapidement, il s'aperçoit que, et là, ce sont ses termes, il y a un fouillis administratif, mais aussi au niveau des services. Et il s'aperçoit que, par exemple, les services sont inégaux d'une région à l'autre. Les citoyens québécois ne paient pas le même prix qu'on soit dans la région de Québec, en Gaspésie, en Abitibi ou encore dans la région de Montréal, qui bénéficie des tarifs les plus bas en raison d'Hydro-Québec. Et rapidement, donc, le nouveau ministre des Richesses naturelles et Ressources naturelles va décider que la nationalisation de l'électricité, c'est une bonne chose administrativement, qu'on peut sauver collectivement de l'argent en uniformisant les services, en abaissant les tarifs pour tous les citoyens et les citoyennes québécois au Québec.
Parce qu'à ce moment-là, il y a quoi? Il y a à peu près une dizaine de compagnies là, qui se partagent le territoire, grosso modo?
Oui, grosso modo, environ 10-11 compagnies. Il y a aussi des coopératives d'électricité un peu partout qui produisent ou qui distribuent de l'électricité. Donc, il y a vraiment plein d'inégalités avec des hauts et des bas, des tarifs plus élevés ou pas.
Et il y a une résistance de la part de la Shawinigan, par exemple, et des autres. Là, j'imagine que ces compagnies n'ont pas envie d'être étatisées, nationalisées.
Non, tout à fait. Il y aura une campagne assez virulente de la Shawinigan, mais aussi du parti d'opposition à ce moment-là, qui est Daniel Johnson, de l'Union nationale, qui va... Encore une fois, on voit le parallèle entre le discours de Duplessis en 1944 puis celui de Johnson en 1962, qui va considérer que le projet de René Lévesque, de Jean Lesage, de nationaliser l'électricité, c'est du socialisme et que ça n'a donc pas de bon sens de nationaliser l'électricité, que l'État n'a pas sa place, on devrait plutôt laisser aller l'entreprise privée ou encore de favoriser les coopératives d'électricité.
Et c'est René Lévesque qui va s'emparer du dossier et qui va le mener à terme et qui va en faire une promesse électorale lors de cette fameuse campagne électorale de 1962 avec ce slogan « Maître chez nous ». On écoute René Lévesque.
Et il a fallu attendre jusqu'en 1944 pour que le premier morceau du monopole de l'électricité, la Montreal Light Heat and Power, soit nationalisé pour devenir l'Hydro-Québec. La plus grande, en fait la seule grande et puissante entreprise de notre peuple. La seule où nous soyons chez nous partout, du bas de l'échelle jusqu'au sommet. La seule de cette importance dans le Québec où il n'y a pas un barreau tout à coup dans l'échelle où c'est marqué « défendu de monter plus haut ». C'est au peuple du Québec de préparer lui-même ses lendemains.
Voilà. Et puis, 1962-1963, la nationalisation sera complétée avec Hydro-Québec. Qu'est-ce qui fait que cette institution, Hydro-Québec, a par la suite, et encore aujourd'hui, valeur de symbole, hein, je le disais en introduction, symbole économique, politique et social?
Mais d'abord, elle est devenue rapidement, cette nouvelle Hydro-Québec de 1963, le symbole de la révolution tranquille.
Oui.
Donc, de la montée en puissance de l'État québécois, d'une prise de contrôle des richesses naturelles par et pour les Canadiens français du Québec ou les Québécois francophones du Québec. Symbole aussi parce que Hydro-Québec est rapidement devenu, dès le milieu des années 50, mais particulièrement dans les années 60, un symbole d'avancée technologique. Un grand barrage aussi comme celui de Daniel Johnson, qui est le barrage de Manic 5, est devenu un symbole du savoir-faire québécois.
Mon invité, je rappelle, Stéphane Savard, professeur et directeur de l'unité de programme des cycles supérieurs au département d'histoire de l'UQAM et auteur aussi d'un livre qui a pour titre Hydro-Québec et l'État québécois, spécialiste, vous l'aurez compris, de l'histoire d'Hydro-Québec, mais aussi des enjeux énergétiques. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à vous.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Coutier, là-dessus, bonne soirée. À demain. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.